Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Allô Radio Immo, c'est votre émission sur Radio Immo, vous le savez, on répond à toutes vos questions chaque semaine avec nos experts. Et cette semaine, je reçois deux femmes, on va parler des taux, on va parler de l'annonce d'hier hein, de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Je reçois Caroline Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de CAFPI, donc vous êtes courtier en crédit immobilier. Et puis Saskia Fizel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et COO de Virgile. Alors, vous avez un partenariat a été noué entre CAFPI et Virgile récemment. Alors, avant de commencer, peut-être petite présentation de Virgile,
Saskia. Avec plaisir. Virgile, en fait, c'est une innovation fondamentale au service de l'accès à la propriété des jeunes actifs. En fait, on est parti d'une réalité qui est aujourd'hui une problématique économique, sociale, sociétale, qui est devenue vraiment brûlante, c'est que c'est devenu impossible pour les jeunes actifs de devenir propriétaires dans les grandes villes où ils travaillent. Et ça recouvre deux sujets. Est-ce que c'est vraiment un problème? Et en fait, pourquoi on n'arrive pas à le résoudre? Quels sont les obstacles? Est-ce que c'est vraiment un problème? Je pense que ça sert pas énormément d'argumenter pendant longtemps sur le sujet. On le sait aujourd'hui. Rester locataire, c'est un obstacle à la construction de richesse parce qu'on a 40% de ses revenus qui partent chaque mois dans son loyer et on se retrouve face à toute une génération de jeunes actifs qui ont du mal à construire de l'épargne, qui ont du mal à construire du revenu et qui se retrouvent bloqués dans ce qu'on appelle le piège locatif. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à le résoudre? Bah, pour une raison assez simple. En fait, les prix de l'immobilier en France, ils ont été multipliés par 10 en 40 ans. 10. À côté, les salaires...
Pas par 10.
Pas par 10. Et certes, en fait, il y a 40 ans, les taux étaient plus hauts, mais en fait, la baisse des taux n'a pas suffi à compenser en fait cette hausse hallucinante en fait du prix de l'immobilier. Ouais. Et plus récemment, depuis maintenant 2 ans, on voit en fait une réhausse de ces taux qui va vraiment venir diminuer le pouvoir d'achat des accédants à l'immobilier et on se retrouve face à des jeunes qui n'arrivent plus à devenir propriétaires. Et la solution Virgile, c'est répondre à ce problème fondamental par l'apport. Donc Virgile, c'est jusqu'à 100 000 euros d'apport en capital pour aider les jeunes actifs à devenir propriétaires. C'est un complément d'apport qui va venir compléter le financement bancaire. Et donc aujourd'hui, les jeunes actifs, mais enfin ça concerne, c'est quand même assez large, hein, les jeunes actifs, hein, les gens qu'on accompagne, ils ont entre 25 et 45 ans, donc c'est une grosse partie des accédants à la propriété. Ils ont vraiment un sujet de comment augmenter mon financement au global et comment le faire avec de l'apport. Et Virgile apporte une solution qui est très innovante de par son format, qui est un format de co-investissement, donc d'une association avec les acquéreurs pour leur permettre d'augmenter ce financement.
Donc vous, voilà, vous associez aux acquéreurs pour augmenter leur financement jusqu'à 100 000 euros d'apport. Et c'est vrai qu'avec 100 000 euros, c'est quand même un bel apport pour un projet immobilier, Caroline.
Tout à fait. Alors, nous, le partenariat avec Virgile est très important parce qu'on voit beaucoup effectivement, de candidats à l'emprunt, de candidats à l'accession à la propriété. Et c'est vrai qu'en 2023, bon, encore aussi, mais en 2023, c'était très criant, où il y avait pas beaucoup de sorties bancaires, mais on avait aussi des montants d'apport qui avaient explosé puisque les banques sélectionnaient finalement un petit peu leurs clients par la typologie de clients. Donc ils prenaient des clients plutôt patrimoniaux, qui avaient beaucoup d'apport, qui avaient aussi de l'épargne à côté. Donc,
une épargne de sécurité, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Hein. Donc de facto, ça laissait vraiment sur le bord de la route les primo-accédants, certains primo-accédants, même des jeunes cadres dynamiques hein, qui n'avaient pas le temps de se constituer une épargne, qui n'avaient pas le temps de se constituer un apport, ou alors ça les contraignait à prendre des espaces beaucoup plus petits. Donc, nous, quand on voit un client qu'il est bloqué parce qu'il n'a pas assez d'apport, dans ces cas-là, on fait appel à notre partenaire Virgile. On le met en relation avec le client pour voir si on peut financer, enfin, Virgile peut s'engager auprès de ce client, cofinancer son achat, et donc soit dumper son apport pour avoir le bien qu'il souhaite, ou soit aussi dumper son apport pour avoir peut-être un bien plus grand et commencer son investissement immobilier.
Alors concrètement, comment ça se passe d'un point de vue purement finance? Voilà, comment vous obtenez l'apport pour ces personnes-là? Et est-ce qu'il y a des profils pour qui c'est plus accessible que pour d'autres.
Alors, les gens qui font appel à nous aujourd'hui, qui ont besoin de Virgile, sans surprise, c'est majoritairement des primo et secondo accédants, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de construire cette épargne dans le passé, puisqu'ils n'étaient pas déjà propriétaires. Et donc, pour eux, Virgile, ça va vraiment être l'occasion de franchir cette marche. Comment ça marche? Caroline a justement mentionné, les banques demandent de plus en plus d'apports. Donc on parle souvent de 10% en moyenne du montant de financement global. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur la dernière année, c'est plutôt 20, voire 25%. En moyenne, un dossier Virgile, il a 25% d'apport aujourd'hui par rapport au montant total du financement. Comment ça marche concrètement, la solution Virgile? En fait, nous, on va venir apporter donc jusqu'à 100 000 euros en plus du financement bancaire. Et donc on va détenir un pourcentage de l'appartement aux côtés des acquéreurs sous forme de co-investissement. Donc, on est des copropriétaires totalement dormants. Les gens sont chez eux, totalement chez eux. On est simplement dormants.
Vous avez une part du bien.
Exactement.
Et comment vous mobilisez les fonds qu'il y a derrière?
On permet en fait de rediriger une partie des fonds immobiliers qui cherchent en fait à investir dans de l'immobilier résidentiel urbain, et en le faisant au service en plus d'une cause qui est quand même relativement juste, qui est l'accès à la propriété des jeunes actifs, et on redirige ces investissements-là vers directement.
Donc c'est des fonds immobiliers qui sont derrière, c'est des fonds et alors j'imagine que forcément à la revente le fonds récupère sa part.
Alors comment ça se passe? C'est Virgile qui a investi en direct, et ça c'est très important pour nous, puisque il y a vraiment cet aspect, vous êtes un acquéreur, un propriétaire, vous devez vous sentir totalement propriétaire de votre appartement, et donc il n'y a pas un jour un fonds qui récupère sa mise. Virgile est copropriétaire dormant pour une durée de 10 ans maximum, ce qui correspond à la durée en fait de détention
d'un
primo, secondo, accédant, et donc vous allez être propriétaire pendant 10 ans de ce bien, parfois vous revendez avant, parce que souvent en fait il y a des changements de vie, vous allez déménager pour plus grand, et puis vous avez construit de l'épargne, vous êtes libre de revendre à tout moment, il n'y a aucune contrainte sur en fait ce que vous faites du bien, comment en fait vous vivez avec, et au moment où vous revendez, à ce moment-là, l'association se termine, et donc Virgile n'est plus copropriétaire avec vous, évidemment.
Et donc, pour 100 000 euros investis, le maximum, combien doit rembourser le propriétaire au moment de la revente, par exemple?
Alors, ça fonctionne de façon super simple, c'est que ça se calcule en pourcentage, c'est-à-dire qu'en moyenne, Virgile va investir à peu près 10% du prix du bien, et en échange de cet apport, va détenir 15%. Donc, on utilise souvent cet exemple-là, parce que le 10 pour 15, il tomberont et que c'est facile à expliquer. Mais pour prendre un exemple assez concret, si vous prenez un couple de jeunes acquéreurs qui gagnent à peu près 3000 euros par mois chacun, ils vont avoir une capacité d'emprunt aujourd'hui, grosso modo, avec les taux autour de 450 000 euros. S'ils ont déjà réussi à réunir 20 000 euros d'apport chacun, ils ont 40 000 euros d'apport. Ils ont un financement global de 490 000 euros. S'ils veulent acheter un appartement à 500 000 euros, en fait, avec les frais de notaire, ils vont avoir besoin d'une enveloppe de financement à peu près 540 000 euros. Là, en fait, il va leur manquer ces fameux 50 000 euros. Mmh. Et du coup, Virgile va venir investir cet apport qui manque, ces 50 000 euros. Ces 50 000 euros, ils vont représenter 10% de cet appartement qui coûte 500 000 euros. Et à ce moment-là, Virgile va détenir
15% de l'appartement.
De l'appartement, et touchera ces 15% au moment de la revente dans un délai de 10 ans.
Et donc, vous demandez de percevoir les 15% du montant du prix à la revente. Du prix de vente. Mais il ne faut pas qu'il y ait une décote, en revanche.
Alors, ce qui est hyper important à comprendre aussi sur le modèle, c'est que nous, on est vraiment sur un modèle win-win, gagnant-gagnant. L'idée, c'est de se dire, cette position de co-investisseur, elle est importante aussi, puisque on n'a pas intérêt à ce que les acquéreurs fassent des mauvaises affaires. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous, puisque finalement, en fait, on a vraiment ce pourcentage fait qu'il n'y a pas un montant fixe. Donc, on gagne quand les acquéreurs gagnent et on perd quand ils perdent.
Bien sûr.
Et donc, il y a quelque chose qui est très important dans notre accompagnement, qui est très apprécié qui vient en plus de l'apport, c'est de se dire, forcément, on va valider le prix du bien dans lequel les acquéreurs...
Donc, vous validez l'achat...
Exactement. Voilà. Et donc, ça garantit...
Ça fait partie des critères de sélection, j'imagine.
Absolument. Et c'est très apprécié par les acquéreurs, parce qu'ils ont, en fait, un co-investisseur qui va vraiment se soucier de... Est-ce que vous êtes en train d'acheter quelque chose, en fait, que vous avez raison d'acheter d'un point de vue financier?
Bien sûr. Ouais, donc vous venez un petit peu valider la vente en quelque sorte.
Exactement.
Karine, alors c'est vrai que là on parlait de l'apport, c'est vrai 20% d'apport, c'est ce que demandent encore les banques actuellement. C'est ce que vous constatez vous en tant que courtier?
Alors aujourd'hui, les banques demandent peut-être moins d'apport, mais c'est quand même ce qu'on voit même depuis très longtemps. Bon, certaines personnes voulaient emprunter sans apport, c'est un peu leur choix, mais on voit quand même, et surtout quand les taux étaient à 4, étaient à 1%, maintenant que les taux sont un peu en dessous de 4, les gens qui ont des liquidités vont les apporter pour réduire leur mensualité ou pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc oui, il y a encore de l'apport et les banques demandent encore de l'apport d'environ de 10%.
Alors, donc 10% d'apport. Aujourd'hui, on est mi-avril. Mmh. Quels sont les taux pour un crédit immobilier?
Alors, les taux à 20 ans continuent de baisser. Hein, c'est ce qu'on a vu en mars, depuis janvier. Donc, depuis janvier, on a des baisses régulières. Là, les dernières baisses sont vraiment légères, hein, mais on est à 3,94 à peu près sur 20 ans. En moyenne, pour les beaux dossiers, on peut être à 3,50. Mais globalement, tous les taux sont redescendus en dessous de 4.
C'est quoi un beau dossier ?
Un beau dossier, c'est une personne plutôt patrimoniale, qui a de l'apport, qui est en CDI, qui a des revenus réguliers, qui a un petit peu d'épargne résiduelle. Voilà, ça c'est un beau dossier pour une banque.
Alors là c'est intéressant ce que vous dites, donc en CDI, est-ce que les entrepreneurs, les indépendants peuvent quand même investir en ce moment dans l'immobilier ou peuvent devenir propriétaires de leur résidence principale?
Oui, alors aujourd'hui les banques sont réouvertes, hein, donc, et ça il faut le dire à tout le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions. C'est les mêmes restrictions qu'avant. Alors, évidemment, une banque est plus regardante, puisque une banque, elle gère ses risques, hein, elle est plus regardante, et elle va préférer des profils de CDI, des profils un petit peu plus stables. Mais les entrepreneurs ont toujours réussi à se financer, et c'est reparti aujourd'hui, tout à fait.
Toutes les banques sont revenues. C'est vrai que certaines avaient coupé les robinets du crédit l'année dernière. Là, est-ce qu'on peut dire que toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit ?
Toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit. Toutes les banques ont de l'appétit vraiment pour prêter et pour distribuer du crédit. Parce qu'il faut voir qu'en 2023, elles n'ont pas fait les ouvertures de compte qu'elles souhaitaient faire. Le crédit, c'est un produit d'appel. C'est un produit harpon pour avoir un nouveau client, pour ensuite l'équiper. Donc tout ce qu'elles n'ont pas fait en 2023, là, elles veulent le faire dès début 2024. Et il y a une saine concurrence entre les banques. Hein. Aujourd'hui, on voit les taux ont baissé. Pas malheureusement de façon structurelle par la baisse des taux des banques centrales, mais parce que les banques reviennent sur le marché, il y a de la concurrence. Ouais. Et on voit au fil des semaines des banques qui baissent leurs taux pour acquérir des clients ou les banques qui boostent leurs conditions pour acquérir certains clients. Donc là, on a vraiment, toutes les banques sont là, il n'y a plus de restrictions et elles ont de l'appétit pour faire du crédit. Et ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est que à l'inverse de 2023, où on n'avait plus de banques, mais on avait encore des acheteurs, là, on a toutes les banques et on a une période un petit peu encore attentiste. Des acheteurs et des vendeurs, certains acheteurs se disant peut-être que les taux vont baisser, et puis les vendeurs se disent moi je baisse pas encore mes prix, mais je pense que le marché va vraiment se fluidifier. On est rentré dans une période de transition pour 2024, ça c'est une certitude. Peut-être on en reparlera, mais on aura les baisses des taux, plusieurs baisses des taux de la BCE, donc avec des taux qui vont baisser, et des conditions qui vont redevenir normales pour emprunter.
Alors, deux actualités cette semaine. Mardi, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a publié une enquête qui a été réalisée auprès de 157 banques. Une enquête qui parle des conditions d'octroi des crédits en général. Et on a constaté dans cette étude que l'assouplissement des conditions d'octroi était uniquement pour les crédits immobiliers. Et vous l'avez dit, une des causes, c'est la concurrence entre toutes les banques. Mmh. Et une tolérance au risque un peu plus grande pour les crédits immobiliers, hein, comparé à d'autres crédits à la consommation... ou même les crédits pour les entreprises. Donc voilà, alors c'est vrai que les banques se sont un petit peu assouplies. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi en termes d'octroi ?
Oui.
Est-ce que les règles sont un petit peu plus souples, légèrement, mais...
Oui, les règles sont plus souples. Alors les banques avaient refermé leur robinet parce que c'était difficile de rentabiliser ces taux de crédit. Donc, et l'accès à les liquidités était compliqué. Donc les banques avaient vraiment fermé la voilure. Là, aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'elles ne prennent pas plus de risques qu'avant. Hein. Les banques de tout temps, c'est elles qui gèrent leur propre politique de risque. Et le crédit immobilier, n'est pas facteur de risque. On sait que, et les chiffres de la Banque de France le disent,
hein,
90% des ménages endettés, en surendettement, sont des locataires ou alors des habitants à titre gratuit, donc pas des propriétaires. Mmh. Donc c'est vrai que le crédit immobilier n'est pas vecteur de surendettement, ça c'est, il faut le dire, il faut le répéter en permanence.
Et les taux de défaut en France
exactement.
Sont extrêmement bas.
Et les banques, elles savent très bien apprécier le risque. Et ils l'ont fait de tout temps, c'est leur métier de prêter. Et donc, de voir le profil du client, ses revenus, ses charges, voilà, la durée de son emprunt, la qualité de son épargne. Voilà, ça c'est vraiment le job des banques. Et quand elles ont tous les moyens pour prêter, elles le font bien.
Alors là, ce qui est reproché aux banques, c'est justement d'être trop strictes, notamment par des règles fixées donc par une institution qui s'appelle le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière. Ces règles sont très critiquées par les professionnels de l'immobilier, bon, ce qui est normal, aussi par certains députés. D'ailleurs, il y a une proposition de loi du député Lionel Causse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le sujet ?
Alors, ce sont des règles d'octroi. Alors, en grande... Pour faire simple, le HCSF a fixé un critère de 35% d'endettement. Voilà, au-delà duquel, la règle, c'est qu'on ne peut pas, quand on prétend à un crédit, être au-delà des 35% d'endettement. Donc ça, c'est une première règle. Et ensuite, on ne peut pas emprunter au-delà de 25 ans. Donc je fais simple, c'est en gros un petit peu l'idée du HCSF. Et c'est assez étrange parce que ce sont des règles qui ont été rendues obligatoires pour les banques en janvier 2022. Donc en plein milieu de la crise immobilière, donc de façon complètement contracyclique, qui, d'après cette autorité, ont été émises pour éviter le surendettement. Ce qui est faux, puisqu'on voit bien que le crédit immobilier n'est pas vecteur de surendettement. Il aurait mieux fait faire des règles pour le crédit conso. Hein, je pense que ça aurait été beaucoup plus utile. Ça a été mis en place plutôt autour de 2019. C'était des recommandations. Et c'était vraiment pour éviter la surchauffe. Parce que cette période, on avait des taux en dessous de 1. Tout le monde achetait. Les prix ont grimpé. Et effectivement, il y avait quand même un emballement où... On n'avait même plus d'apport, il fallait s'endetter pour acheter. Et donc je pense que face à cet emballement, ils ont voulu un petit peu éviter que la cocomite minute explose. Donc ils ont mis ces normes en termes de recommandations, mais ils ont rendu obligatoire en 2022, au moment où le marché se retourne, au moment où l'inflation explose et où la BCE monte ses taux, de façon régulière, tous les mois, pendant 10 mois. Donc effectivement, on est arrivé à un complet blocage sur ces règles et ils l'ont assoupli. Hein, ils les ont assouplies en mettant en place des dérogations. Hein, donc vous avez 20% de dérogations. Oui. Vous avez des dérogations.
Qui ne sont pas d'ailleurs utilisées par les banques apparemment.
Alors voilà le problème, c'est qu'on peut dire qu'on a des dérogations, c'est très bien. Mais quand vous êtes une banque et que vous pilotez au niveau central et que vous avez des agences, les banques l'ont dit, elles l'ont répété, elles ne savent pas piloter. Ces critères d'octroi. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas... donc elles vont octroyer peut-être des crédits à plus de clients qu'elles n'auraient le droit de déroger. Hein. Des clients qui vont être à 36, à 37, à 38, à 39. Vous pouvez avoir des clients qui sont à 39% d'endettement, mais qui ont un reste à vivre très important.
Quand on gagne 15 000 euros, ce n'est pas le même reste à vivre que quand on gagne 2 ou 3 000 euros.
Exactement.
C'est sûr que ce n'est pas la même
chose.
Ce n'est
pas les banques qui ne veulent pas prêter. Hein, c'est, quand on a ces problématiques de critères d'octroi, et malheureusement, voilà, vont sélectionner les meilleurs profils. Qui vont être les plus rentables pour elles dans ces dérogations de 20%. Donc ça ne va pas forcément bénéficier aux primo-accédants, malheureusement.
Alors hier, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a tenu une conférence de presse. Elle maintient ses taux directeurs. Pas de baisse des taux pour l'instant. Le gouverneur de la Banque de France avait annoncé une baisse au printemps, il avait dit.
Donc, tout le monde.
Il avait dit, ouais, baisse, le printemps, ça va de avril à juin. Donc c'est vrai que... Bon, et puis d'autres personnalités avaient annoncé une baisse. Donc là, ce sera plutôt quoi, en juin, en
oui,
fait
oui, en juin. Tout le monde s'est raconté que c'était en juin. Ça aurait été vraiment une surprise, une très bonne surprise. Ouais. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage parce que l'inflation a bien baissé. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les taux de la Banque centrale, ils sont à un niveau auquel ils n'ont jamais été. Hein. 4% taux de dépôt, 4,50 taux de refinancement. Là, on est vraiment à un plafond très important. Donc, ça va bloquer la croissance aussi. Et on voit l'inflation qui baisse. Là, on est à 2,4% en mars sur un an. Donc, très proche, finalement,
ouais, 2%,
de la cible des 2%. Donc, ça aurait été possible de le faire. Je pense qu'il y a de la prudence. Je pense aussi, alors je ne sais pas si c'est l'habitude, mais dans l'habitude que ça soit la Fed,
oui, c'est ça,
qui d'abord annonce des baisses des taux.
Et là, la Fed a maintenu. Donc,
Voilà. Donc, bon. Mais on est quand même sur un cap. Tout le monde, enfin, les spécialistes anticipent vraiment certainement 4 baisses. 3 à 4 baisses, enfin la Fed, je crois que c'est 4, 3, mais 3 à 4 baisses de taux directeurs cette année. Donc,
D'accord, après, donc à partir du mois de juin.
À partir du mois de juin, tout à fait. Mmh.
Donc ce sera un bon signal en tout cas pour les investisseurs. Mmh. On va parler du coup de votre partenariat, donc depuis mars il est en place. Vous envoyez donc les jeunes actifs qui ont du mal à réunir leur apport, voir Virgile. Comment ça se passe au niveau pratique? Donc c'est sur le site internet, on prend contact avec vous, comment faire?
En fait, dès le début de notre partenariat, il y a eu une volonté vraiment conjointe de répondre ensemble à un même problème qui était de se dire aujourd'hui, les premières victimes en fait, de ce durcissement des conditions bancaires, ce sont les jeunes actifs. C'est vraiment souvent un sujet d'apport et donc pour cela, il y a une solution qui est en fait, CAFPI a une expertise historique gestion de ces dossiers, mais aujourd'hui ce qui manque c'est l'apport. Donc pour ceux où précisément ce problème est identifié, on va en fait envoyer ces dossiers chez Virgile pour que nous on puisse faire la partie apport, pendant que CAFPI en fait fait son métier historique qui est vraiment le financement bancaire et l'accompagnement. Donc on a vraiment cumulé ces deux expertises et ces deux accompagnements là, et ce qui nous permet en fait d'offrir une solution complète qui satisfait vraiment les acquéreurs.
Oui, parce que voilà, vous vous occupez de l'apport d'un côté et donc vous du financement par la banque.
Et nous concrètement CAFPI, c'est vrai qu'on a un gros maillage du territoire, hein, puisqu'on a 1100 courtiers partout en France. Je sais pas, vos auditeurs qui sont des jeunes actifs et qui veulent compléter leur rapport avec Virgile et travailler avec, ils viennent voir un courtier. Donc comment ils viennent voir un courtier? Soit il y a le site internet, ils font une simulation, il faut être mis en relation directement par le courtier de leur proximité, ou alors ils peuvent prendre rendez-vous directement. Et ensuite, c'est vrai que ce qui est très important, c'est d'analyser son dossier. Quand on prépare son dossier de crédit, il faut vraiment et on est aidé par les banques, on est aidé par les courtiers. Le courtier il connaît toutes les banques. Hein, ouais. Donc quand je vous dis qu'on peut avoir des meilleurs tarifs à 3,50 et on peut avoir encore des taux barèmes de certaines banques qui sont à 4, vous voyez, l'écart est très important. Donc ça c'est l'apport du courtier. Et ensuite si ça passe pas, si le client il veut plus grand, s'il a pas assez d'apport. Le courtier envoie le contact à Virgile pour construire ensemble la solution de financement.
Et il y a une question qui revient souvent d'ailleurs de nos auditeurs. Quand on fait appel à un courtier, est-ce que vous démarchez des banques qui sont un peu plus loin que le domicile des auditeurs?
Oui, on peut faire du hors secteur, mais souvent quand c'est frontalier. Hein, effectivement, c'est ou alors quand le client peut-être il achète aussi sa maison de campagne ou oui on peut le faire,
c'est possible en tout
cas.
C'est possible. Parce que là vous disiez qu'il y avait des fortes disparités entre les banques, donc on imagine que
c'est possible, tout à fait c'est possible. Banques. Après bon, certaines banques l'acceptent ou pas d'autres, mais tout est négociable. Je pense que ce qui est important de dire aux auditeurs, c'est que tout est négociable. Hein, la banque, la typologie de crédit, avec de l'apport, sans apport, sur 30 ans. Je veux dire, on voit quand même des banques aujourd'hui qui proposent des prêts sur 30 ans. C'est hors critère HSF. Mmh.
Donc ça fait partie des dérogations.
Oui. Exactement, exactement.
Et le prix du bien. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait, des taux, mais il y a aussi la partie en fait, prix du bien avec des prix qui ont baissé. Mmh. Et aujourd'hui, il y a vraiment quand même une certaine flexibilité à la capacité à aller négocier le prix du bien avec des vendeurs qui ont été attentistes pendant assez longtemps, mais qui maintenant ont quand même besoin d'une certaine liquidité. Et donc, il y a toute cette flexibilité à la fois sur la partie financement bancaire, mais aussi sur en fait, quel va être le montant du financement nécessaire, parce que quel va être le montant du bien finalement.
Mmh. Et prix du bien, vous dites que ça a baissé. Est-ce que ça a baissé partout sur le territoire? Parce qu'on a vu quand même des zones où ça continuait d'augmenter. Est-ce que...
Alors, c'est pas totalement uniforme, c'est sûr. Il y a toujours des disparités géographiques et on voit certaines villes qui tirent leur épingle du jeu. Mais ce qu'on voit quand même au niveau global, si on regarde en moyenne, c'est quand même une baisse graduelle en fait, depuis un an qui n'est pas moins 20, moins 30% qu'on
attendu,
a pu annoncer et qui du coup ne compense pas en fait aussi cette baisse de pouvoir d'achat qui a été liée à la
hausse des taux. C'est pour ça que ça bloque d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un blocage du marché.
Ouais. Exactement de là que vient le frottement, mais il faut quand même se dire que ça a baissé et c'est vraiment important parce que quand on a une baisse de 5 à 10% du prix du bien, en fait c'est 5 à 10% de la surface que vous pouvez acheter en plus, et ça représente une pièce, tout de suite, en fait, ça change un peu la donne. Mmh. Et cette baisse, elle a eu lieu, elle continue à avoir lieu. On voit, en fait, cette fluidification dont parlait Caroline tout à l'heure, qui est vraiment à l'œuvre, parce qu'il y a ces doubles mécanismes en place. Il y a effectivement les taux qui baissent, même si la BCE... se fait un peu désirer sur le sujet, mais les banques ont déjà commencé à baisser. Mmh. Et on voit aussi les prix qui continuent à baisser. Mmh.
Là, on a beaucoup de dossiers qui sont passés là, sur ce premier trimestre, qui étaient des dossiers qui ne passaient pas fin 2023. Donc on a un flux aussi, c'est un peu des régularisations, c'est-à-dire des clients qui...
il y a plus de dossiers acceptés.
Leur dossier ne passait pas. Ouais. Et avec, effectivement, un peu la baisse des prix, les négos qu'ils ont pu faire et la baisse des taux... ces dossiers sont débloqués. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour les emprunteurs.
Et puis, on rappelle que là, le pouvoir est entre les mains des acquéreurs. Donc n'hésitez pas à négocier le prix du bien que vous désirez acheter. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cette émission passionnante. Et puis, je rappelle donc votre partenariat, donc CAFPI, Virgile. Merci beaucoup, mesdames. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Immo. À très vite.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.